Bonjour à tous et à toutes. Dans notre cours aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui est très présente dans les formations des professeurs et aussi dans nos classes, dans notre quotidien. C'est l'enseignement de la grammaire. Alors, pour commencer, j'aimerais vous poser quelques questions. Comment j'ai appris la grammaire en français, en anglais, etc. Quelles sont vos expériences par rapport à cet apprentissage? Qu'est-ce que c'est apprendre la grammaire en langue? Est-ce que j'aime les exercices structuraux? Pourquoi? L'enseignant doit toujours systématiser les points de grammaire traités en classe? Et dans l'approche communicative, y a-t-il de la place pour la grammaire? Bon, l'objectif de ces questions, c'est de récupérer un peu votre expérience en tant qu'étudiant et en même temps en tant qu'enseignant. Les réponses que vous avez données en cours portent sur un apprentissage qui est très marqué par le métalangage. Ça fait référence un peu au portugais, comment on avait appris les portugais à l'école. Et normalement, l'accent mis à la grammaire en classe de langue, il est fait d'une manière de systématiser, donc retirer un point qui a été présent, qui a été dit par les élèves, et à partir de là, on systématise. Alors, la grammaire, elle est toujours présente en cours de langue, évidemment. On parle, si on parle, si on s'adresse à quelqu'un en contexte formel ou informel, ça dépend hein, des enjeux communicatifs présents dans la situation de communication. Évidemment, on se sert de la langue. Alors, la question principale, c'est, pour nous, enseignants, c'est quand on fait la systématisation grammaticale, quels sont les points qu'on attire l'attention des étudiants, des élèves pour systématiser. Si on corrige les erreurs, comme on a dit la dernière classe, etc. Alors, un exercice que j'aime beaucoup pour connaître un peu le vécu des apprenants, c'est le nuage de mots. Alors, ça renvoie à la première question. Quelles sont mes expériences par rapport à l'étude grammaticale d'une langue? Et ce nuage, il vous permet de vérifier et en même temps d'identifier plutôt quelles sont les représentations des apprenants par rapport à cette étude. Donc, il y a des rapports qui font référence au vécu scolaire, au vécu académique, des mauvaises expériences, mais beaucoup de mémorisation, etc. Donc, c'est un exercice que vous pouvez le faire soit pour identifier ces aspects, soit pour travailler le vocabulaire d'une thématique en particulier. Donc, c'est très efficace comme activité. Bon, en ce qui nous concerne, dans les méthodologies d'enseignement de langue, la place de la grammaire a occupé différents types d'approches. C'est-à-dire, si on revoit un peu la grammaire traduction, et vous avez l'expérience du latin et du grec à l'USP, vous savez que la règle occupait un point central dans cette méthodologie. Parce qu'à partir de la règle, je peux comprendre une phrase. Normalement, était une phrase retirée de texte littéraire. Et à partir de là, on peut appliquer la règle, la traduire, la comprendre et faire le transfert de la règle à d'autres phrases. Quand on passe à la méthodologie directe, le cœur de cette méthodologie, c'est l'expression orale. Mais la grammaire, elle est présentée aux étudiants comme aux élèves comme un ensemble de règles. Donc, on les présente et après, on vérifie comment cela se manifeste, disons, dans les activités proposées. Et à l'oral. Donc, si c'est l'oral, si c'est cette acquisition de la règle de la grammaire, l'erreur n'a pas de place. Immédiatement, une erreur identifiée, elle doit être corrigée. Quand on se rapproche des méthodologies vers le communicatif, donc on a la méthodologie audio-orale, structuro-globale, audiovisuelle et l'approche communicative, on voit qu'il y a des différences. Dans les années 60, la méthodologie audio-orale s'appuyait sur des principes behavioristes. Et donc, le plus important, c'était concevoir les exercices à partir de trois éléments importants. Donc, le stimulus, la réponse, le renforcement. Et les exercices structuraux ont occupé une place fondamentale dans cette méthodologie. Parce qu'on écoutait, on communiquait de cette manière et on renforçait tout l'apprentissage à partir des exercices structuraux. Ce sont les répétitions qu'on faisait dans les laboratoires des langues. Après, dans la structure globale audiovisuelle, il y a cette idée d'une approche plus globale de la situation, donc une mise en contexte, mais c'est à partir des images, donc un élément fondamental qui intervient dans les classes, c'est l'image et l'audio, et la consigne principale était observer et répéter. Donc, à l'idée de répétition, il n'y a pas trop l'idée de stimulus, réponse et renforcement, mais il y a un effort énorme pour faire répéter. Donc, on observe l'image, on voit ce qui est dit et après, on répète. Quand on arrive vers les années 70-80, l'approche communicative va dire on va arrêter de mettre cet accent très fort sur la règle, les règles au pluriel et la grammaire, et on va faire attention au message. Donc, s'il y a des erreurs, on va les corriger, mais au fur et à mesure. Ce n'est pas le cas d'interrompre l'apprenant pour voir si il se corrige ou si on le corrige, etc. Donc, mettre l'accent sur le message et pas trop sur la forme. Et pour chaque méthodologie, les consignes des exercices nous informent ce qu'il fallait faire en classe. Donc, en grammaire traduction, c'est observer la règle. Lisez la phrase, lisez le texte et appliquez la règle. Et après, on peut traduire, on peut faire d'autres activités. En méthodologie directe, c'est plutôt observer les questions et les réponses et formuler la règle. Elle peut être annoncée au début, mais c'est à partir des exercices, des questions, des réponses, des répétitions, disons, des associations et des ajouts des éléments linguistiques que les élèves vont avoir les pistes nécessaires pour formuler la règle. Dans la méthodologie audio-orale, on a des exercices très clairs et l'utilisation du métalangage. Donc, compléter avec les articles définis. Écouter et compléter avec les pronoms sujets. Cela se justifie par rapport aux exercices structuraux. Dans SGAV, on a observé, répété et complété. Donc là, la différence, c'est plutôt l'approche plus globale de la situation, de la mise en contexte, mais les exercices activaient chez l'apprenant cette idée d'observation, répétition et de réalisation de l'exercice à partir des
éléments identifiés. Dans l'approche communicative, on a plutôt une place plus importante à l'apprenant, donc on peut parler du centrage sur l'apprenant, et on l'invite à toujours formuler des réflexions et des règles. Alors, former des mots. On regarde un exemple, et à partir de cet exemple, on peut trouver d'autres mots. Donc, si je dis « danser », c'est la danse. Donc, du verbe au substantif, et on avait des listes à compléter. Deux définitions me paraissent importantes à faire. Donc, ce que c'est exercices structuraux. Alors, les buts de ces exercices, c'est acquérir la maîtrise d'une structure linguistique. Donc, si par hasard, vous pensez dans vos cours qu'il est important de mettre l'accent sur une structure linguistique en particulier, vous pouvez donner des exercices à faire. Là, ce n'est pas interdit, mais il faut savoir le moment et la place de ces exercices lors de vos cours. Hein. Cette manipulation systématique de la structure linguistique, elle a aussi comme but de faire que l'apprenant puisse acquérir un comportement linguistique par conditionnement. Donc là, c'est la fonction acquérir une habitude, un comportement linguistique. Et quand on fait référence au métalangage, on parle de l'ensemble des discours sur la grammaire, utilisant des termes présents dans la description du fonctionnement de la langue. Et quand on dit compléter avec les articles définis, cela présuppose que les élèves savent ce que c'est les articles définis. Sinon, l'exercice ne sert à rien. Les approches dans les études sur l'enseignement de la grammaire et ce que vous pouvez trouver dans les textes que j'ai mis sur Moodle, on voit ce type d'approche. On voit la grammaire implicite qui s'oppose à l'explicite, comme vous voyez bien. C'est implicite, c'est sans explication de la règle et du métalangage. Explicite, c'est le contraire. Donc, quand j'ai dit aujourd'hui, on va étudier les articles définis, je parle d'une approche explicite. Parce que là, je vais présenter la règle, je vais utiliser le métalangage et je vais me servir des exemples. La grammaire déductive et inductive, vous voyez, la démarche, elle est différente. La déductive, on part de la règle pour aboutir à l'exemplification. Et inductive, on part de l'analyse des exemples pour remonter à la règle. Ce qui est plus utilisé, disons, dans les cours après les années... après l'approche communicative, après les années 80. Pourquoi celle-là est plus intéressante? Parce qu'on compte sur la capacité des élèves de mobiliser leurs propres connaissances. Et à l'aide d'une grammaire contextualisée, c'est-à-dire la règle, elle est à l'intérieur d'une situation de communication ou d'un texte, on peut faire apparaître ce mouvement d'analyse des phrases, des exemples, etc. Quand on fait de la lecture, quand on faisait les cours de français instrumental, on s'appuyait beaucoup sur cela, parce que là, le texte est du domaine de connaissance de l'élève. On a des exemples clairs, on peut faire des comparaisons, etc. Donc là, c'est très utilisé. Si on reprend un peu les méthodologies, on pourrait dire que les deux premières s'appuyaient sur une grammaire explicite,
Et à partir des années 60-70, on passe à une approche beaucoup plus inductive. Ce qui va varier, c'est justement cette inspiration de... Inspiration, je ne dirais pas inspiration, mais c'est comment on fait cours. Si dans les années 60, l'inductive se faisait par l'observation, la répétition et les renforcements de la phrase correcte, dans SGAV et approche communicative, on demande à l'élève beaucoup plus de réflexion. Alors, cet exercice de vrai ou faux, c'est juste pour faire apparaître, pour vous donner quelques éléments provocatifs, pour vous faire réagir par rapport à ce qu'on vient de dire jusqu'à présent. Donc, faites cet exercice et essayez de justifier vos réponses. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Si on passe à une situation qui est très fréquente dans les cours des langues, et là, les exemples qui apparaissent normalement, c'est quand on va traiter le passé composé. Là, les enseignants en formation disent toujours « Mais pourquoi je ne peux pas passer la règle du passé composé avant de faire l'exercice ?» Le passé composé, en termes de sens, on peut le comprendre par rapport au pretérito perfeito qu'on a en portugais, mais la question des auxiliaires, elle est compliquée, etc. Alors, si on décide de présenter la règle pour s'assurer que l'écoute dans cet exemple, elle sera plus efficace, on a tort. Parce que si on fait un travail de compréhension orale, c'est pour faire apparaître la compréhension des élèves. Donc, si j'anticipe cette règle pour me rassurer que la compréhension sera plus facile, je peux me tromper parce que l'élève fera plus d'attention à la règle qu'à l'écoute du document. Donc, il faut penser à d'autres éléments qui vont apparaître dans l'approche globale de la situation et le repérage de certains éléments qui caractérisent cette situation au passé. Et après, on peut faire la systématisation qu'on veut. Dans cette autre situation de cours, l'attention se fait, on peut la faire à la dernière phrase. Les dialogues de présentation de la leçon servent à présenter les structures que les élèves doivent apprendre. Ça, c'est ce qu'on trouve dans les manuels. Tous les documents déclencheurs, ils sont censés avoir les structures linguistiques, soit la grammaire, soit les vocabulaires, soit des éléments contextuels propres de la situation socio-culturelle, etc., qui vont donner la direction à l'enseignant de ce qu'il va faire pendant deux ou trois cours. Dans l'autre diapositive, on peut revoir un peu cette idée de la place de la grammaire dans l'apprentissage. Alors, les rôles de l'enseignant est d'aider l'apprenant à découvrir les règles de fonctionnement grammatical en lui présentant les problèmes de façon à ce qu'il soit amené à observer, comparer, associer, distinguer, déduire. Là, c'est une chose qu'on fait quand on voit un parallélisme entre le portugais et le français ou avec d'autres langues. Si on compare une langue à l'autre, c'est parce que on voit que cette comparaison va aider l'apprenant à apprendre, à mémoriser des formes, à déduire des règles. Mais là, il faut faire attention et ça, c'est très particulier. Ça dépend de chaque situation, de chaque document oral ou écrit. Alors, j'ai choisi deux exemples deux grammaires, deux pages de grammaire. Donc la première, vous la connaissez bien, c'est la grammaire de premier temps. Et l'autre aussi, c'est la grammaire progressive. Alors l'idée, c'est de vous faire réfléchir sur les types, que ce qui a, quels sont les principes qui ont inspiré la conception de ces deux grammaires. Alors, la grammaire progressive, c'est un peu clair. On voit bien que sur la page de gauche, on a l'explication de la règle à l'aide d'exemples, c'est vrai, mais on a une explication détaillée de la règle. Donc là, c'est le cas des négations particulières. Sur la page de droite, on a des exemples. Ce que la grammaire progressive a innové, c'est qu'avant, les grammaires donnaient des exemples des textes littéraires, retirés des textes littéraires. Et maintenant, à partir de cette collection grammaire progressive et même d'autres, mais en particulier celle-là, on voit des exemples plus du quotidien. Ce qui ne veut pas dire que c'est facile et qui c'est un peu contextuel. C'est-à-dire, parfois, il y a des choses un peu bêtes là-dedans. Donc, l'utilisation de cette grammaire ou de quelques exercices doit être faite d'une manière réfléchie. On ne peut pas dire faites cela à la maison et en cours ne pas reprendre les exercices ou les questions qui ont été que les élèves eux-mêmes peuvent poser à propos du vocabulaire, etc. À la fin, il y a une tentative de faire quelque chose de plus contextuel. Par contre, la grammaire des premiers temps, ça a été une édition a eu beaucoup de succès parce que l'approche, elle est différente. Donc, on a dans les consignes des situations, la modalité de travail, elle change. Il faut le dire, quand on prend la grammaire progressive, normalement, c'est l'étudiant à la maison ou en classe, il fait de manière individuelle. Avec celle de premier temps, non. Vous voyez dans la consigne, en groupe, vous devez travailler en groupe, vous allez imaginer, vous allez commenter les titres de reportage, etc. Donc, il y a beaucoup plus l'idée d'une grammaire en situation, montrant que utiliser la langue, c'est l'utiliser pour la communication, pour la mise en contexte, dans une situation authentique. Alors, l'activité que je vous propose, c'est celle-là. Observez le dialogue et répondez. Quelle démarche d'exploitation méthodologique feriez-vous? Quels aspects linguistiques travaillerez-vous en classe? Quelle approche grammaticale orienterait votre cours? Quelle systématisation grammaticale feriez-vous et à quel moment? Donc, ces questions, c'est pour un exercice pour travailler ce dialogue que j'ai pris de la méthode café crème. Donc vous voyez, c'est un dialogue simple qui est présent dans tous les manuels de français. C'est pour aller à la gare, indiquer un chemin, etc. Alors ça m'intéresse de voir comment vous faites votre plan de cours et votre plan de cours à partir de ces questions que je viens de vous poser. À la maison, vous devez faire la première activité de stage. Donc, dans la discipline, vous avez des activités pratiques. Donc, ces activités, elles comptent et elles inspirent votre journal d'apprentissage que vous allez me le rendre à la fin du semestre. Donc, cet exercice, c'est assez simple. Et à la maison, vous devez faire le même, mais à partir d'un document oral ou écrit que vous-même, vous allez sélectionner. Donc, la réflexion, elle est importante. C'est faire apparaître quelques principes, essayer de préciser ce que vous faites en classe ou ce que vous aimeriez faire en classe, etc. L'activité, elle est sur Moodle et vous devez la faire avant le prochain cours. Voilà, c'est tout. Merci. À la prochaine.